Alfred de Vigny, 5 mars. Chapitre 1. Les adieux.
Fare thee well, and if forever, still forever fare thee well, Lord Biron.
Adieu, et si c'est pour toujours, encore adieu. Connaissez-vous cette contrée que l'on a surnommée le jardin de la France, ce pays où l'on respire un air si pur dans les plaines verdoyantes arrosées par un grand fleuve? Si vous avez traversé dans les mois d'été la belle Touraine, vous aurez longtemps suivi la Loire paisible avec enchantement, vous aurez regretté de ne pouvoir déterminer entre les deux rives celle où vous choisirez votre demeure pour y oublier les hommes auprès d'un être aimé. Lorsque l'on accompagne le flot jaune et lent du beau fleuve, on ne cesse de perdre ses regards dans les riants détails de la rive droite. Des vallons peuplés de jolies maisons blanches qu'entourent des bosquets, des coteaux jaunis par les vignes ou blanchis par les fleurs du cerisier, de vieux murs couverts de chèvrefeuilles naissants, des jardins de roses d'où sort tout à coup une tour élancée, tout rappelle la fécondité de la terre, l'ancienneté de ses monuments, et tout intéresse dans les œuvres de ses habitants industrieux. Rien ne leur a été inutile. Il semble que, dans leur amour d'une aussi belle patrie, seule province de France que n'occupa jamais l'étranger, il n'ait pas voulu perdre le moindre espace de son terrain, le plus léger grain de son sable. Vous croyez que cette vieille tour démolie n'est habitée que par les oiseaux hideux de la nuit? Non. Au bruit de vos chevaux, la tête riante d'une jeune fille sort du lierre poudreux, blanchie sous la poussière de la grande route, si vous gravissez un coteau hérissé de raisins, une petite fumée vous avertit tout à coup qu'une cheminée est à vos pieds. C'est que le rocher même est habité, et des familles de vignerons respirent dans ses profonds souterrains, abrités dans la nuit par la terre nourricière, qu'elle cultive laborieusement pendant le jour. Les bons tourangeaux sont simples comme leur vie, doux comme l'air qu'ils respirent et forts comme le sol puissant qu'ils fertilisent. On ne voit sur leurs traits bruns ni la froide immobilité du nord, ni la vivacité grimacière du midi. Leur visage a, comme leur caractère, quelque chose de la candeur du vrai peuple de Saint-Louis. Leurs cheveux châtains sont encore longs et arrondis autour des oreilles, comme les statues de pierre de nos rois. Leur langage est le plus pur français, sans lenteur, sans vitesse, sans accent. Le berceau de la langue est là, près du berceau de la monarchie. Mais la rive gauche de la Loire se montre plus sérieuse dans ses aspects. Ici, c'est Chambord que l'on aperçoit de loin, et qui, avec ses dômes bleus et ses petites pôles, ressemblent à une grande ville de l'Orient. Là, Chanteloup, suspendant au milieu de l'air son élégante pagode. Non loin de ses palais, un bâtiment plus simple attire les yeux du voyageur par sa position magnifique et sa masse imposante. C'est le château de Chaumont. Construit sur la colline la plus élevée du rivage de la Loire, il encadre ce large sommet avec ses hautes murailles et ses énormes tours. De longs clochers d'ardoise les élèvent aux yeux et donnent à l'édifice cet air de couvent, cette forme religieuse de tous nos vieux châteaux, qui imprime un caractère plus grave au paysage de la plupart de nos provinces. Des arbres noirs et touffus entourent de tous côtés cet ancien manoir et de loin, ressemblent à ces plumes qui environnaient le chapeau du roi Henri. Un joli village s'étend au pied du mont, sur le bord de la rivière, et l'on dirait que ces maisons blanches sortent du sable doré. Il est lié au château qui le protège par un étroit sentier qui circule dans le rocher. Une chapelle est au milieu de la colline. Les seigneurs descendaient et les villageois montaient à son autel. Terrain d'égalité, placé comme une ville neutre entre la misère et la grandeur, qui se sont trop souvent fait la guerre. Ce fut là que, dans une matinée du mois de juin 1639, la cloche du château ayant sonné à midi, selon l'usage, le dîner de la famille qui l'habitait, il se passa dans cette antique demeure des choses qui n'étaient pas habituelles. Les nombreux domestiques remarquèrent qu'en disant la prière du matin à toute la maison assemblée, la maréchale des Fiat avait parlé d'une voix moins assurée et les larmes dans les yeux, qu'elle avait paru vêtue d'un deuil plus austère que de coutume. Les gens de la maison et les Italiens de la duchesse de Mantoue, qui s'étaient alors retirés momentanément à Chaumont, virent avec surprise des préparatifs de départ se faire tout à coup. Le vieux domestique du maréchal des Fiat, mort depuis 6 mois, avait repris ses bottes, qu'il avait juré précédemment d'abandonner pour toujours. Ce brave homme, nommé Grandchamp, avait suivi partout le chef de la famille dans les guerres et dans ses travaux de finance. Il avait été son écuyer dans les unes et son secrétaire dans les autres. Il était revenu d'Allemagne depuis peu de temps, apprendre à la mère et aux enfants les détails de la mort du maréchal, dont il avait reçu les derniers soupirs à Lusenstein. C'était un de ses fidèles serviteurs, dont les modèles sont devenus trop rares en France, qui souffrent des malheurs de la famille et se réjouissent de ses joies, désirent qu'il se forme des mariages pour avoir à élever de jeunes maîtres, grondent les enfants et quelquefois les pères, s'exposent à la mort pour eux, les servent s'engagent dans les révolutions, travaillent pour les nourrir et, dans les temps prospères, les suivent et disent « Voilà nos vignes !» en revenant au château. Il avait une figure sévère très remarquable, un teint fort cuivré, des cheveux gris argentés et dont quelques mèches, encore noires comme ses sourcils épais, lui donnaient un air dur au premier aspect. Mais un regard pacifique adoucissait cette première impression. Cependant, le son de sa voix était rude. Il s'occupait beaucoup ce jour-là de hâter le dîner et commandait à tous les gens du château, vêtus de noir comme lui. « Allez, disait-il, dépêchez-vous de servir pendant que Germain, Louis et Étienne vont seller leurs chevaux. Monsieur Henri et nous, il faut que nous soyons loin d'ici à 8 heures du soir. Et vous, messieurs les Italiens, avez-vous averti votre jeune princesse ? Je gage qu'elle est allée lire avec ses dames au bout du parc ou sur les bords de l'eau. Elle arrive toujours après le premier service pour faire lever tout le monde de table. « Ah, mon cher Grandchamp !» dit à voix basse une jeune femme de chambre qui passait et s'arrêta. « Ne faites pas songer à la duchesse. Elle est bien triste et je crois qu'elle restera dans son appartement. Sancta Maria ! Je vous plains de voyager aujourd'hui. Partir un vendredi, le 13 du mois, et le jour de Saint-Gervin et Saint-Protée, le jour des deux martyrs. J'ai dit mon chapelet toute la matinée pour monsieur de Saint-Marc. Mais en vérité, je n'ai pu m'empêcher de songer à tout ce que je vous dis. Ma maîtresse y pense aussi bien que moi, toute grande dame qu'elle est. Ainsi, n'ayez pas l'air d'en rire. » En disant cela, la jeune Italienne se glissa comme un oiseau à travers la grande salle à manger et disparut dans un corridor, effrayée de voir ouvrir les doubles battants des grandes portes du salon. Grandchamp s'était à peine aperçu de ce qu'elle avait dit et semblait ne s'occuper que des apprêts du dîner. Il remplissait les devoirs importants de maître d'hôtel et jetait le regard le plus sévère sur les domestiques pour voir s'ils étaient tous à leur poste, se plaçant lui-même derrière la chaise du fils aîné de la maison, lorsque tous les habitants du château entrèrent successivement dans la salle. 11 personnes, hommes et femmes, se placèrent à table. La maréchale avait passé la dernière, donnant le bras à un beau vieillard vêtu magnifiquement, qu'elle fit placer à sa gauche. Elle s'assit dans un grand fauteuil doré au milieu de la table, dont la forme était un carré long. Un autre siège un peu plus orné était à sa droite, mais il resta vide. Le jeune marquis des Fiat, passé en face de sa mère, devait l'aider à faire les honneurs. Il n'avait pas plus de 20 ans et son visage était assez insignifiant. Beaucoup de gravité et des manières distinguées annonçaient pourtant un naturel sociable, mais rien de plus. Sa jeune sœur de 14 ans, 2 gentilshommes de la province, 3 jeunes seigneurs italiens de la suite de Marie de Gonzague, duchesse de Mantoue, une demoiselle de compagnie, gouvernante de la jeune fille du maréchal, et un abbé du voisinage, vieux et fort sourd, composaient l'assemblée. Une place à gauche du fils aîné restait vacante encore. La maréchale, avant de s'asseoir, fit le signe de la croix et dit le bénédicité à haute voix. Tout le monde y répondit en faisant le signe entier ou sur la poitrine seulement. Cet usage s'est conservé en France dans beaucoup de familles jusqu'à la Révolution de 1789. Quelques-unes l'ont encore, mais plus en province qu'à Paris, et non sans quelque embarras et quelques phrases préliminaires sur le bon temps, accompagnées d'un sourire d'excuse quand il se présente un étranger. Car il est trop vrai que le bien a aussi sa rougeur. La maréchale était une femme d'une taille imposante, dont les yeux grands et bleus étaient d'une beauté remarquable. Elle ne paraissait pas avoir atteint encore 45 ans. Mais, abattue par le chagrin, elle marchait avec lenteur et ne parlait qu'avec peine, fermant les yeux et laissant tomber sa tête sur sa poitrine pendant un moment, lorsqu'elle avait été forcée d'élever la voix. Alors, sa main appuyée sur son sein montrait qu'elle ressentait une vive douleur. Aussi vit-elle avec satisfaction que le personnage placé à gauche, sans parents, sans en être prié par personne, du dé de la conversation, le tint avec un sang-froid imperturbable pendant tout le repas. C'était le vieux maréchal de Bassompierre. Il avait conservé, sous ses cheveux blancs, un air de vivacité et de jeunesse fort étrange à voir. Ses manières, nobles et polies, avaient quelque chose d'une galanterie surannée comme son costume, car il portait une fraise à la Henri IV et les manches tailladées à la manière du dernier règne, ridicule impardonnable aux yeux des beaux de la cour. Cela ne nous paraît pas plus singulier qu'autre chose à présent. Mais il est convenu que dans chaque siècle, on rira de l'habitude de son père, et je ne vois guère que les Orientaux qui ne soient pas attaqués de ce mal. L'un des gentilshommes italiens avait à peine fait une question au maréchal sur ce qu'il pensait de la manière dont le cardinal traitait la fille du duc de Mantoue, que celui-ci s'écria dans son langage familier. « Eh, corbleu, monsieur, à qui parlez-vous ? Puis-je rien comprendre à ce régime nouveau sous lequel vit la France ? Nous autres, vieux compagnons d'armes du feu roi, nous entendons mal la langue que parle la cour nouvelle, et elle ne sait plus la nôtre. Que dis-je ? On n'en parle aucune dans ce triste pays, car tout le monde s'y tait devant le cardinal. Cet orgueilleux petit vassal nous regarde comme de vieux portraits de famille, et de temps en temps, il en retranche la tête. Mais la devise y reste toujours, heureusement. N'est-il pas vrai, mon cher Puy-Laurens ? Ce convive était à peu près du même âge que le maréchal, mais plus grave et plus circonspect que lui, il répondit quelques mots vagues et fit un signe à son contemporain pour lui faire remarquer l'émotion désagréable qu'il avait fait éprouver à la maîtresse de la maison en lui rappelant la mort récente de son mari et en parlant ainsi du ministre son ami. Mais ce fut en vain, car Bassompierre, content du signe de demi-approbation, vida d'un trait un fort grand verre de vin, remède qu'il vante dans ses mémoires comme parfait contre la peste et la réserve, et, se penchant en arrière pour en recevoir un autre de son écuyer, s'établit plus carrément que jamais sur sa chaise et dans ses idées favorites. Oui, nous sommes tous de trop ici. Je le dis l'autre jour à mon cher duc de Guise, qu'ils ont ruiné. On compte les minutes qui nous restent à vivre, et l'on secoue notre sablier pour le hâter. Quand monsieur le cardinal duc voit dans un coin 3 ou 4 de nos grandes figures qui ne quittaient pas les côtés du feu roi, Il sent bien qu'il ne peut pas mouvoir ses statues de fer et qu'il y fallait la main du grand homme. Il passe vite et n'ose pas se mêler à nous qui ne le craignons pas. Il croit toujours que nous conspirons et, à l'heure qu'il est, on dit qu'il est question de me mettre à la Bastille. « Eh, monsieur le maréchal, qu'attendez-vous pour partir ?» dit l'Italien. « Je ne vois que la Flandre qui vous puisse être un abri. » « Ah, monsieur, vous ne me connaissez guère. Au lieu de fuir, j'ai été trouver le roi avant son départ, et je lui ai dit que c'était afin qu'on n'eût pas la peine de me chercher, et que si je savais où il veut m'envoyer, j'irais moi-même sans qu'on m'y menât. Il a été aussi bon que je m'y attendais, et m'a dit « Comment, vieil ami, aurais-tu la pensée que je le voulusse faire ? Tu sais bien que je t'aime. » Ah, mon cher maréchal, je vous fais compliment, dit Madame Défiat d'une voix douce. Je reconnais la bonté du roi à ce mot-là. Il se souvient de la tendresse que le roi son père avait pour vous. Il me semble même qu'il vous a accordé tout ce que vous vouliez pour les vôtres, ajouta-t-elle avec insinuation, pour le remettre dans la voie de l'éloge et le tirer du mécontentement qu'il avait entamé si hautement. Certes, madame, reprit-il, personne ne sait mieux reconnaître ses vertus que François de Bassompierre. Je lui serai fidèle jusqu'à la fin parce que je me suis donné corps et bien à son père dans un bal. Et je jure que, de mon consentement du moins, personne de ma famille ne manquera à son devoir envers le roi de France. Quoique les Bestein soient étrangers et lorrains, mordieu, une poignée de main de Henri IV nous a conquis pour toujours. Ma plus grande douleur a été de voir mon frère mourir au service de l'Espagne, et je viens d'écrire à mon neveu que je le déshériterais s'il passait à l'empereur, comme le bruit en a couru. Un des gentilshommes qui n'avait rien dit encore et que l'on pouvait remarquer à la profusion des nœuds de rubans et d'aiguillettes qui couvraient son habit et à l'ordre de Saint-Michel, dont le cordon noir ornait son cou, s'inclina en disant que c'était ainsi que tout sujet fidèle devait parler. « Pardieu, monsieur de Launay, vous vous trompez fort, dit le maréchal, en qui revint le souvenir de ses ancêtres. Les gens de notre sang sont sujets par le cœur, car Dieu nous a fait naître tout aussi bien seigneurs de nos terres que le roi l'est des siennes. Quand je suis venu en France, c'était pour me promener et suivi de mes gentilshommes et de mes pages. Je m'aperçois que plus nous allons, plus on perd cette idée, et surtout à la cour. Mais voilà un jeune homme qui arrive bien à propos pour m'entendre. » La porte s'ouvrit en effet, et l'on vit entrer un jeune homme d'une assez belle taille. Il était pâle, ses cheveux étaient bruns, ses yeux noirs, son air triste et insouciant. C'était Henri Défiat, marquis de Saint-Marc, nom tiré d'une terre de famille. Son costume et son manteau court étaient noirs. Un collet de dentelle tombait sur son cou jusqu'au milieu de sa poitrine. Des petites bottes fortes, très évasées, et ses éperons faisaient assez de bruit sur les dalles du salon pour qu'on l'entendît venir de loin. Il marcha droit à la maréchale Défiat en la saluant profondément et lui baisa la main. « Eh bien, Henri, lui dit-elle, vos chevaux sont-ils prêts? À quelle heure partez-vous? » « Après le dîner, sur le champ, madame, si vous permettez, » dit-il à sa mère avec le cérémonieux respect du temps. Et, passant derrière elle, il fut saluer monsieur de Bassompierre avant de s'asseoir à la gauche de son frère aîné. « Eh bien, dit le maréchal tout en dînant de fort bon appétit, vous allez partir, mon enfant, vous allez à la cour. C'est un terrain glissant aujourd'hui. Je regrette pour vous qu'il ne soit pas resté ce qu'il était. La cour, autrefois, n'était autre chose que le salon du roi où il recevait ses amis naturels. Les nobles des grandes maisons, ses pairs, qui lui faisaient visite pour lui montrer leur dévouement et leur amitié, jouaient leur argent avec lui et l'accompagnaient dans ses parties de plaisir, mais ne recevaient rien de lui que la permission de conduire leurs vassaux se faire casser la tête avec eux pour son service. Les honneurs que recevait un homme de qualité ne l'enrichissaient guère, car il les payait de sa bourse. « J'ai vendu une terre à chaque grade que j'ai reçu, Le titre de colonel général des Suisses m'a coûté 400 000 écus et le baptême du roi actuel me fit acheter un habit de 100 000 francs. Ah, pour le coup, vous conviendrez, dit en riant la maîtresse de maison, que rien ne vous y forçait. Nous avons entendu parler de la magnificence de votre habit de perles, mais je serais très fâchée qu'il fût encore de mode d'en porter de pareils. Ah, madame la marquise, soyez tranquille. Ce temps de magnificence ne reviendra plus. Nous faisions des folies, sans doute, mais elles prouvaient notre indépendance. Il est clair qu'alors on n'eût pas enlevé au roi des serviteurs que l'amour seul attachait à lui et dont les couronnes de duc ou de marquis avaient autant de diamants que sa couronne fermée. Il est visible aussi que l'ambition ne pouvait s'emparer de toutes les classes puisque de semblables dépenses ne pouvaient sortir que des mains riches et que l'or ne vient que des mines. Les grandes maisons que l'on détruit avec tant d'acharnement n'étaient point ambitieuses et souvent, ne voulant aucun emploi du gouvernement, tenaient leur place à la cour par leur propre poids, existaient de leur propre être et disaient comme l'une d'elles « Prince ne daigne, Rohan suit ». Il en était de même de toute famille noble à qui sa noblesse suffisait et que le roi relevait lui-même en écrivant à l'un de mes amis « L'argent n'est pas chose commune entre gentilshommes comme vous et moi ». Mais, monsieur le maréchal, interrompit froidement et avec beaucoup de politesse monsieur de Launay, qui peut-être avait dessein de l'échauffer, cette indépendance a produit aussi bien des guerres civiles et des révoltes comme celle de monsieur de Montmorency. Corbleu, monsieur, je ne puis entendre parler ainsi, dit le fougueux maréchal en sautant sur son fauteuil. Ces révoltes et ces guerres, monsieur, n'ôtaient rien aux lois fondamentales de l'État et ne pouvaient pas plus renverser le trône que ne le ferait un duel. De tous ces grands chefs de parti, il n'en est pas un qui n'eût mis sa victoire au pied du roi s'il eût réussi, sachant bien que tous les autres seigneurs, aussi grands que lui, l'eussent abandonné, ennemi du souverain légitime. Nul ne s'est armé que contre une faction et non contre l'autorité souveraine, et, cet accident détruit, tout fut rentré dans l'ordre. Mais qu'avez-vous fait en nous écrasant? Vous avez cassé les bras du trône et ne mettrez rien à leur place. Oui, je n'en doute plus à présent. Le cardinal-duc accomplira son dessein en entier, la grande noblesse quittera et perdra ses terres, et, cessant d'être la grande propriété, cessera d'être une puissance. La cour n'est déjà plus qu'un palais où l'on sollicite. Elle deviendra plus tard une antichambre quand elle ne se composera plus que des gens de la suite du roi. Les grands noms commenceront par ennoblir des charges viles. Mais par une terrible réaction, ces charges finiront par avilir les grands noms. Étrangère à ses foyers, la noblesse ne sera plus rien que par les emplois qu'elle aura reçus, et si les peuples, sur lesquels elle n'aura plus d'influence, veulent se révolter... Que vous êtes sinistre aujourd'hui, maréchal ? Interrompit la marquise. « J'espère que ni moi ni mes enfants ne verront ces temps-là. Je ne reconnais plus votre caractère enjoué à toute cette politique. Je m'attendais à vous entendre donner des conseils à mon fils. Eh bien, Henri, qu'avez-vous donc? Vous êtes bien distrait. » Saint-Marc, les yeux attachés sur la grande croisée de la salle à manger, regardait avec tristesse le magnifique paysage qu'il avait sous les yeux. Le soleil était dans toute sa splendeur et colorait les sables de la Loire, les arbres et les gazons d'or et d'émeraude. Le ciel était d'azur, les flots d'un jaune transparent, les îles d'un vert plein d'éclat. Derrière leurs têtes arrondies, on voyait s'élever les grandes voiles latines des bateaux marchands comme une flotte en embuscade. « Oh, nature, nature !» se disait-il. Belle nature, adieu. Bientôt mon cœur ne sera plus assez simple pour te sentir, et tu ne plairas plus qu'à mes yeux. Ce cœur est déjà brûlé par une passion profonde, et le récit des intérêts des hommes y jette un trouble inconnu. Il faut donc entrer dans ce labyrinthe. Je m'y perdrai peut-être, mais pour Marie... se réveillant alors aux mots de sa mère et craignant de montrer un regret trop enfantin de son beau pays et de sa famille. « Je songeais, madame, à la route que je vais prendre pour aller à Perpignan et aussi à celle qui me ramènera vers vous. N'oubliez pas de prendre celle de Poitiers et d'aller à Loudun voir votre ancien gouverneur, notre bon abbé qui y est. Il vous donnera d'utiles conseils sur la cour. Il est fort bien avec le duc de Bouillon. Et d'ailleurs, quand il ne vous serait pas très nécessaire, c'est une marque de déférence que vous lui devez bien. » C'est donc au siège de Perpignan que vous vous rendez, mon ami, répondit le vieux maréchal, qui commençait à trouver qu'il était resté bien longtemps dans le silence. Ah, c'est bien heureux pour vous. Peste, un siège, c'est un joli début. J'aurais donné bien des choses pour en faire un avec le feu roi à mon arrivée à la cour. J'aurais mieux aimé m'y faire arracher les entrailles du ventre qu'à un tournoi comme je fis. Mais on était en paix, et je fus obligé d'aller faire le coup de pistolet contre les Turcs avec le Rosworm des Hongrois pour ne pas affliger ma famille par mon désœuvrement. Du reste, je souhaite que Sa Majesté vous reçoive d'une manière aussi aimable que son père me reçut. Certes, le roi est brave et bon, mais on l'a habitué, malheureusement, à cette froide étiquette espagnole qui arrête tous les mouvements du cœur. Il contient lui-même et les autres par cet abord immobile et cet aspect de glace. Pour moi, j'avoue que j'attends toujours l'instant du dégel, mais en vain. Nous étions accoutumés à d'autres manières par ce spirituel et simple Henri, et nous avions du moins la liberté de lui dire que nous l'aimions. Cinq-Mars, les yeux fixés sur ceux de Bassompierre, comme pour se contraindre lui-même à faire attention à ses discours, lui demanda quelle était la manière de parler du feu roi. Vive et franche, dit-il. Quelque temps après mon arrivée en France, je jouais avec lui et la duchesse de Beaufort à Fontainebleau. Car il voulait, disait-il, me gagner mes pièces d'or et mes belles portugaises. Il me demanda ce qui m'avait fait venir dans ce pays. Ma foi, sire, lui dis-je franchement, je ne suis point venu à dessein de m'embarquer à votre service, mais bien pour passer quelque temps à votre cour et de là à celle d'Espagne. Mais vous m'avez tellement charmé que, sans aller plus loin, si vous voulez de mon service, je m'y voue jusqu'à la mort. Alors il m'embrassa et m'assura que je n'eusse pu trouver un meilleur maître qui m'aima plus. Hélas, je l'ai bien éprouvé, et moi je lui ai tout sacrifié jusqu'à mon amour, et j'aurais fait plus encore s'il se pouvait faire plus que de renoncer à mademoiselle de Montmorency. Le bon maréchal avait les yeux attendris. Mais le jeune marquis des Fiat et les Italiens, se regardant, ne purent s'empêcher de sourire en pensant qu'alors la princesse de Condé n'était rien moins que jeune et jolie. Cinq-Mars s'aperçut de ces signes d'intelligence et rit aussi, mais d'un rire amer. Est-il donc vrai, se disait-il, que les passions puissent avoir la destinée des modes et que peu d'années puissent frapper du même ridicule un habit et un amour? Heureux celui qui ne survit pas à sa jeunesse, à ses illusions et qui emporte dans la tombe tout son trésor. Mais rompant encore avec effort le cours mélancolique de ses idées et voulant que le bon maréchal ne lût rien de déplaisant sur le visage de ses hôtes, on parlait donc alors avec beaucoup de liberté au roi Henri, dit-il. Peut-être aussi, au commencement de son règne, avait-il besoin d'établir ce ton-là? Mais lorsqu'il fut le maître, changea-t-il? Jamais, non, jamais notre grand roi ne cessa d'être le même jusqu'au dernier jour. Il ne rougissait pas d'être un homme et parlait à des hommes avec force et sensibilité. Eh, mon Dieu! Je le vois encore embrassant le duc de Guise en carrosse le jour même de sa mort. Il m'avait fait une de ses spirituelles plaisanteries, et le duc lui dit « Vous êtes à mon gré un des plus agréables hommes du monde, et notre destin portait que nous fussions l'un à l'autre. Car si vous n'eussiez été qu'un homme ordinaire, je vous aurais pris à mon service, à quelque prix que c'eût été. Mais puisque Dieu vous a fait naître un grand roi, il fallait bien que je fusse à vous. « Ah, grand homme, tu l'avais bien dit !» s'écria Bassompierre, les larmes aux yeux, et peut-être un peu animé par les fréquentes rasades qu'il se versait. « Quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez ce que je valais. » Pendant cette sortie, les différents personnages de la table avaient pris des attitudes diverses selon leur rôle dans les affaires publiques. L'un des Italiens affectait de causer et de rire tout bas avec la jeune fille de la maréchale. L'autre prenait soin du vieux abbé sourd qui, mettant une main derrière son oreille pour mieux entendre, était le seul qui eut l'air attentif. Saint-Mars avait repris sa distraction mélancolique après avoir lancé le maréchal, comme on regarde ailleurs après avoir jeté une balle à la paume jusqu'à ce qu'elle revienne. Son frère aîné faisait les honneurs de la table avec le même calme. Puis Laurens regardait avec soin la maîtresse de la maison. Il était tout au duc d'Orléans et craignait le cardinal. Pour la maréchale, elle avait l'air affligée et inquiet. Souvent des mots rudes lui avaient rappelé ou la mort de son mari ou le départ de son fils. Plus souvent encore, elle avait craint pour Bassompierre lui-même qu'il ne se compromît et l'avait poussé plusieurs fois en regardant M. Delaunay qu'elle connaissait peu et qu'elle avait quelques raisons de croire dévoué au Premier ministre. Mais avec un homme de ce caractère, de tels avertissements étaient inutiles. Il eut l'air de n'y point faire attention et, au contraire, écrasant ce gentilhomme de ses regards hardis et du son de sa voix, il affecta de se tourner vers lui et de lui adresser tout son discours. Pour celui-ci, il prit un air d'indifférence et de politesse consentante qu'il ne quitta pas jusqu'au moment où, les deux battants étant ouverts, on annonça « Mademoiselle la duchesse de Mantoue ». Les propos que nous venons de transcrire longuement furent pourtant assez rapides et le dîner n'était pas à la moitié quand l'arrivée de Marie de Gonzague fit lever tout le monde. Elle était petite mais fort bien faite et quoique ses yeux et ses cheveux fussent très noirs, sa fraîcheur était éblouissante comme la beauté de sa peau. La maréchale fit le geste de se lever pour son rang et l'embrassa sur le front pour sa bonté et son bel âge. « Nous vous avons attendu longtemps aujourd'hui, chère Marie, » lui dit-elle en la plaçant près d'elle. « Vous me restez, heureusement, pour remplacer un de mes enfants qui part. » La jeune duchesse rougit et baissa la tête et les yeux pour qu'on ne vît pas leur rougeur et dit d'une voix timide. « Madame, il le faut bien, puisque vous remplacez ma mère auprès de moi. » Et un regard fit pâlir Saint-Mars à l'autre bout de la table. Cette arrivée changea la conversation. Elle cessa d'être générale et chacun parla bas à son voisin. Le maréchal seul continuait à dire quelques mots de la magnificence de l'ancienne cour et de ses guerres en Turquie et des tournois et de l'avarice de la cour nouvelle. Mais, à son grand regret, personne ne relevait ses paroles et on allait sortir de table lorsque l'horloge ayant sonné 2 heures, 5 chevaux parurent dans la grande cour. 4 seulement étaient montés par des domestiques en manteau et bien armés. L'autre cheval, noir et très vif, était tenu en main par le vieux Grandchamp. C'était celui de son jeune maître. « Ah ah ! » s'écria Bassompierre. « Voilà notre cheval de bataille, tout scellé et bridé. Allons, jeune homme, il faut dire comme notre vieux maraud, « Adieu la cour, adieu les dames !» Adieu les filles et les femmes, adieu vous dit pour quelque temps, adieu vos plaisants passe-temps, adieu le bal, adieu la danse, adieu mesure, adieu cadence, tambourin, hautbois, violon, puisqu'à la guerre nous allons. » Ces vieux vers et l'air du maréchal faisaient rire toute la table, hormis 3 personnes. « Jésus Dieu, il me semble, continua-t-il, que je n'ai que 17 ans comme lui. Il va nous revenir tout brodé, madame. Il faut laisser son fauteuil vacant. » Ici, tout à coup, la maréchale pâlit, sortit de table en fondant en larmes, et tout le monde se leva avec elle. Elle ne put faire que 2 pas et retomba assise sur un autre fauteuil. Ses fils et sa fille et la jeune duchesse l'entourèrent avec une vive inquiétude et démêlèrent parmi des étouffements et des pleurs qu'elle voulait retenir. « Pardon, pardon, mes amis, c'est une folie, un enfantillage. Mais je suis si faible à présent que je n'en ai pas été maîtresse. Nous étions 13 à table, et c'est vous qui en avez été cause, ma chère duchesse. Mais c'est bien mal à moi de montrer tant de faiblesse devant lui. Adieu, mon enfant, donnez-moi votre front à baiser et que Dieu vous conduise. Soyez digne de votre nom et de votre père. » Puis, comme a dit Omer, riant sous les pleurs, elle se leva en le poussant et disant « Allons, que je vous voie à cheval, bel écuyer !» Le silencieux voyageur baisa les mains de sa mère et la salua ensuite profondément. Il s'inclina aussi devant la duchesse sans lever les yeux. Puis, embrassant son frère aîné, serrant la main au maréchal et baisant le front de sa jeune sœur presque à la fois, il sortit et, dans un instant, fut à cheval. Tout le monde se mit aux fenêtres qui donnaient sur la cour, excepté Madame Défiat, encore assise et souffrante. « Il part au galop, c'est bon signe !» dit en riant le maréchal. « Ah, Dieu !» cria la jeune princesse en se retirant de la croisée. « Qu'est-ce donc ?» dit la mère. « Ce n'est rien, ce n'est rien !» dit Monsieur de Launay. « Le cheval de monsieur votre fils est abattu sous la porte, mais il l'a bientôt relevé de la main. Tenez, le voilà qui salue de la route. » « Encore un présage funeste !» dit la marquise en se retirant dans ses appartements. Chacun l'imita en se taisant ou en parlant bas. La journée fut triste et le souper silencieux au château de Chaumont. Quand vinrent 10 heures du soir, le vieux maréchal, conduit par son valet de chambre, se retira dans la tour du Nord, voisine de la porte et opposée à la rivière. La chaleur était extrême. Il ouvrit la fenêtre et, s'enveloppant d'une vaste robe de soie, plaça un flambeau pesant sur une table et voulut rester seul. Sa croisée donnait sur la plaine, que la lune dans son premier quartier n'éclairait que d'une lumière incertaine. Le ciel se chargeait de nuages épais et tout disposait à la mélancolie. Quoique Bassompierre n'eût rien de rêveur dans le caractère, la tournure qu'avait prise la conversation du dîner lui revint à la mémoire, et il se mit à repasser en lui-même toute sa vie et les tristes changements que le nouveau règne y avait apportés, règne qui semblait avoir soufflé sur lui un vent d'infortune. La mort d'une sœur chérie, les désordres de l'héritier de son nom, les pertes de ses terres et de sa faveur, la fin récente de son ami, le maréchal Défiat, dont il occupait la chambre, toutes ses pensées lui arrachèrent un soupir involontaire. Il se mit à la fenêtre pour respirer. En ce moment, il crut entendre du côté du bois la marche d'une troupe de chevaux. Mais le vent qui vint à augmenter le dissuada de cette première pensée et, tout bruit cessant tout à coup, il l'oublia. Il regarda encore quelque temps tous les feux du château qui s'éteignirent successivement après avoir serpenté dans les ogives des escaliers et rôdé dans les cours et les écuries. Retombant ensuite sur son grand fauteuil de tapisserie, le coude appuyé sur la table, il se livra profondément à ses réflexions. Et bientôt après, tirant de son sein un médaillon qu'il y cachait, suspendu à un ruban noir, « Viens, mon bon et vieux maître, viens » dit-il. Viens causer avec moi comme tu fis si souvent. Viens, grand roi, oublier ta cour pour le rire d'un ami véritable. Viens, grand homme, me consulter sur l'ambitieuse Autriche. Viens, inconstant chevalier, me parler de la bonhomie de ton amour et de la bonne foi de ton infidélité. Viens, héroïque soldat, me crier encore que je t'offusque au combat. Ah, que ne l'ai-je fait dans Paris? Que n'ai-je reçu ta blessure? Avec ton sang, le monde a perdu les bienfaits de ton règne interrompu. » Les larmes du maréchal troublaient la glace du large médaillon, et il les effaçait par de respectueux baisers, quand sa porte ouverte brusquement le fit sauter sur son épée. « Qui va là ? » cria-t-il dans sa surprise. Elle fut bien plus grande quand il reconnut M. Delaunay, qui, le chapeau à la main, s'avança jusqu'à lui et lui dit avec embarras. « Monsieur le maréchal, c'est le cœur navré de douleur que je me vois forcé de vous dire que le roi m'a commandé de vous arrêter. Un carrosse vous attend à la grille avec 30 mousquetaires de monsieur le cardinal-duc. » Bassompierre ne s'était point levé et avait encore le médaillon dans la main gauche et l'épée dans l'autre main. Il la tendit dédaigneusement à cet homme et lui dit « Monsieur, je sais que j'ai vécu trop longtemps et c'est à quoi je pensais. C'est au nom de ce grand Henri que je remets paisiblement cette épée à son fils. Suivez-moi. » Il accompagna ces mots d'un regard si ferme que Delaunay fut atterré et le suivit en baissant la tête, comme si lui-même eût été arrêté par le noble vieillard qui, saisissant un flambeau, sortit de la cour et trouva toutes les portes ouvertes par des gardes à cheval qui avaient effrayé les gens du château au nom du roi et ordonné le silence. Le carrosse était préparé et partit rapidement, suivi de beaucoup de chevaux. Le maréchal, assis à côté de M. Delaunay, commençait à s'endormir, bercé par le mouvement de la voiture, lorsqu'une voix forte cria au cocher « Arrête !» Et, comme il poursuivait, un coup de pistolet partit. Les chevaux s'arrêtèrent. « Je déclare, monsieur, que ceci se fait sans ma participation, » dit Bassompierre. Puis, mettant la tête à la portière, il vit qu'il se trouvait dans un petit bois et un chemin trop étroit pour que les chevaux puissent passer à droite ou à gauche de la voiture, avantage très grand pour les agresseurs, puisque les mousquetaires ne pouvaient avancer. Il cherchait à voir ce qui se passait, lorsqu'un cavalier, ayant à la main une longue épée dont il parait les coups que lui portait un garde, s'approcha de la portière en criant « Venez, venez, monsieur le maréchal !»« Eh, quoi ? C'est vous, étourdi d'Henri, qui faites de ces escapades ? Messieurs, messieurs, laissez-le, c'est un enfant !» Et Delaunay, ayant crié aux mousquetaires de le quitter, on eut le temps de se reconnaître. « Et comment diable êtes-vous ici ? » reprit Bassompierre. « Je vous croyais à Tours, et même bien plus loin, si vous aviez fait votre devoir. Et vous voilà revenu pour faire une folie ?»«
Ce n'est point pour vous que je revenais seul ici, c'est pour affaires secrètes, » dit Saint-Marc plus bas. « Mais comme je pense bien qu'on vous mène à la Bastille, je suis sûr que vous n'en direz rien. C'est le temple de la discrétion. » « Cependant, si vous aviez voulu, » continua-t-il très haut, « je vous aurais délivré de ces messieurs dans ce bois où un cheval ne pouvait remuer. À présent, il n'est plus temps. Un paysan m'avait appris l'insulte faite à nous, plus qu'à vous, par cet enlèvement dans la maison de mon père. C'est par ordre du roi, mon enfant, et nous devons respecter ses volontés. Gardez cette ardeur pour son service. Je vous en remercie cependant de bon cœur. Touchez-la et laissez-moi continuer ce joli voyage. » Delaunay ajouta « Il m'est permis d'ailleurs de vous dire, monsieur de Saint-Marc, que je suis chargé par le roi même d'assurer monsieur le maréchal qu'il est fort affligé de ceci, mais c'est de peur qu'on ne le porte à mal faire qu'il le prie de demeurer quelques jours à la Bastille. » Bassompierre reprit en riant très haut. « Vous voyez, mon ami, comme on met les jeunes gens en tutelle. Ainsi, prenez garde à vous. » « Eh bien, soit, partez, partez donc, » dit Henri. « Je ne ferai plus le chevalier errant pour les gens, malgré eux. » Et, rentrant dans le bois pendant que la voiture repartait au grand trot, il prit par des sentiers détournés le chemin du château. Ce fut au pied de la tour de l'Ouest qu'il s'arrêta. Il était seul en avant de Grandchamp et de sa petite escorte et ne descendit point de cheval. Mais, rapprochant du mur de manière à y coller sa botte, il souleva la jalousie d'une fenêtre du rez-de-chaussée, faite en forme de herse, comme on en voit encore dans quelques vieux bâtiments. Il était alors plus de minuit et la lune s'était cachée. Tout autre que le maître de la maison n'eût jamais su trouver son chemin par une obscurité si grande. Les tours et les toits ne formaient qu'une masse noire qui se détachait à peine sur le ciel un peu plus transparent. Aucune lumière ne brillait dans toute la maison endormie. Saint-Marc, caché sous un chapeau à large bord et un grand manteau, attendait avec anxiété. Qu'attendait-il? Qu'était-il revenu chercher? Un mot d'une voix qui se fit entendre très bas derrière la croisée.
« Est-ce vous, monsieur de Saint-Marc ?»«
Hélas, qui serait-ce? Qui reviendrait comme un malfaiteur toucher la maison paternelle sans y rentrer et sans dire encore adieu à sa mère? Qui reviendrait pour se plaindre du présent, sans rien attendre de l'avenir, si ce n'était moi ?» La voix douce se troubla, et il fut aisé d'entendre que des pleurs accompagnaient sa réponse.
« Hélas, Henri, de quoi vous plaignez-vous? N'ai-je pas fait plus et bien plus que je ne devais? Est-ce ma faute si mon malheur voulut qu'un prince souverain fût mon père? Peut-on choisir son berceau et, dit-on, je naîtrai bergère? Vous savez bien quelle est toute l'infortune d'une princesse. On lui ôte son cœur en naissant, toute la terre est avertie de son âge, un traité la cède comme une ville, et elle ne peut jamais pleurer. Depuis que je vous connais, que n'ai-je pas fait pour me rapprocher du bonheur et m'éloigner des trônes? Depuis 2 ans, j'ai lutté en vain contre ma mauvaise fortune qui me sépare de vous, et contre vous qui me détournez de mes devoirs. Vous savez bien, j'ai désiré qu'on me crût morte. Que dis-je? J'ai presque souhaité des révolutions. J'aurais peut-être béni le coup qui m'eût ôté mon rang, comme j'ai remercié Dieu lorsque mon père fut renversé. Mais la cour s'étonne, la reine me demande. Nos rêves sont évanouis, Henri. Notre sommeil a été trop long. Réveillons-nous avec courage. Ne songez plus qu'à ces 2 belles années. Oubliez tout pour ne vous souvenir que de notre grande résolution. N'ayez qu'une pensée, soyez ambitieux par. Ambitieux pour moi.
Faut-il donc oublier tout, ô Marie? Dit Saint-Marc avec douceur. Elle hésita.
Oui, tout ce que j'ai oublié moi-même, reprit-elle.
Puis, un instant après, elle continua avec vivacité.
Oui, oubliez nos jours heureux, nos longues soirées, et même nos promenades de l'étang et du bois. Mais souvenez-vous de l'avenir. Partez. Votre père était maréchal. Soyez plus connétable, prince. Partez. Vous êtes jeune, noble, riche, brave, aimé.
Pour toujours, dit Henri.
Pour la vie et pour l'éternité.
Saint-Marc tressaillit et, tendant la main, s'écria. Eh bien, j'en jure par la Vierge dont vous portez le nom, vous serez à moi, Marie, ou ma tête tombera sur l'échafaud.
« Oh, ciel, que dites-vous ? »
s'écria-t-elle en prenant sa main avec une main blanche qui sortit de la fenêtre.
« Non, non, vos efforts ne seront jamais coupables, jurez-le-moi. Vous n'oublierez jamais que le roi de France est votre maître. Aimez-le plus que tout. » Après celle pourtant qui vous sacrifiera tout et vous attendra en souffrant. Prenez cette petite croix d'or, mettez-la sur votre cœur, elle a reçu beaucoup de mes larmes. Songez que si jamais vous étiez coupable envers le roi, j'en verserai de bien plus amères. Donnez-moi cette bague que je vois briller à votre doigt. Oh Dieu, ma main et la vôtre sont toutes rouges de sang.
Qu'importe, il n'a pas coulé pour vous. N'avez-vous rien entendu, il y a 1 heure?
Non, mais à présent, n'entendez-vous rien vous-même?
Non, Marie, si ce n'est un oiseau de nuit sur la tour.
On a parlé de nous, j'en suis sûre. Mais d'où vient donc ce sang? Dites vite et partez.
Oui, je pars. Voici un nuage qui nous rend la nuit. Adieu, ange céleste, je vous invoquerai. L'amour a versé l'ambition dans mon cœur comme un poison brûlant. Oui, je le sens pour la première fois, l'ambition peut être ennoblie par son but. Adieu, je vais accomplir ma destinée.
Adieu, mais songez à la mienne.
Peuvent-elles se séparer?
Jamais, s'écria Marie, que par la mort.
Je crains encore plus l'absence, dit Saint-Marc.
Adieu, je tremble, adieu, dit la voix chérie.
Et la fenêtre s'abaissa lentement sur les deux mains encore unies. Cependant, le cheval noir ne cessait de piaffer et de s'agiter en hennissant. Son maître inquiet lui permit de partir au galop, et bientôt ils furent rendus dans la ville de Tours que les clochers de Saint-Gatien annonçaient de loin. Le vieux grand-champ, non sans murmurer, avait attendu son jeune seigneur et gronda de voir qu'il ne voulait pas se coucher. Toute l'escorte partit, et 5 jours après, entra dans la vieille cité de Loudun, en Poitou, silencieusement et sans événement.